J'aimerais vous raconter comment un rien pesant 2 livres à la naissance a réussi à trouver son chemin dans la vie et comment j'ai appris ce dont je vais vous parler. Je voudrais vous dire comment vous aussi pouvez arriver à la conviction que cette vie terrestre que vous vivez dans votre corps physique ne représente qu'une toute petite partie de votre existence globale. Néanmoins, votre vie actuelle a une très grande importance dans le cadre de votre existence globale, car vous êtes ici pour une raison précise qui vous est propre. Si vous vivez bien, vous n'avez pas de soucis à vous faire à propos de la mort, même s'il ne vous reste qu'un jour à vivre. Le facteur temps ne joue qu'un rôle dérisoire, car il est de toute façon fondé sur une conception élaborée par l'homme. Bien vivre veut dire apprendre à aimer. Hier, j'étais très émue lorsque le conférencier disait « Maintenant donc, foi, espérance et amour, mais le plus grand des trois, c'est l'amour. » En Suisse, on fait sa confirmation à 16 ans. C'était la citation. En Suisse, on fait sa confirmation à 16 ans et on vous attribue un verset qui est censé vous accompagner dans la vie. Puisque nous étions des triplés, il a fallu trouver un verset qui nous convenait à tous les trois. On s'est mis d'accord sur le verset ci-dessus. Et à moi, on a donné le mot « amour ». C'est pourquoi j'aimerais vous parler de l'amour. Pour moi, « amour » veut dire « vie » et « mort », car les deux sont la même chose. Je suis née comme une enfant non désirée. Non pas que mes parents ne voulussent pas d'enfant, au contraire, ils désiraient une fille. Mais une fille bien portante, de 10 livres. Ils ne s'attendaient pas à des triplés. Et lorsque j'apparus, je ne pesais que 2 livres et j'étais très laide. Je n'avais pas de cheveux et j'étais sûrement pour eux une très très grande déception. 15 minutes plus tard naquit le second et 20 minutes après, le troisième enfant qui pesait 6,5 livres. Nos parents étaient enfin heureux, bien qu'ils eussent préféré rendre 2 d'entre nous. Je crois que rien dans la vie n'est dû au hasard et certainement pas les circonstances de ma naissance. Elles m'ont donné le sentiment que même un rien de 2 livres devait prouver de toutes ses forces qu'il avait le droit de vivre. J'ai dû travailler très durement, comme les aveugles qui se croient obligés de s'appliquer 10 fois plus pour ne pas perdre leur emploi. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, j'étais teenager. Je ressentais un grand besoin de faire quelque chose pour ce monde si secoué par la guerre. Je m'étais juré qu'à la fin de la guerre, j'irais en Pologne pour y participer au premier secours et aider à parer au plus pressé. J'ai tenu ma promesse et je crois que c'est là que se situe le début de mon travail ultérieur qui devait porter sur le mourir et la mort. J'ai moi-même visité les camps de concentration. J'ai vu de mes propres yeux des wagons avec des chaussures d'enfant et d'autres remplis de cheveux humains provenant des victimes de ces camps. On avait transporté ces cheveux en Allemagne pour en confectionner des oreillers. Si l'on a senti l'odeur des camps de concentration de son propre nez et vu les fours crématoires de ses propres yeux, si en plus on était aussi jeune que moi à l'époque, on ne peut plus jamais être la même personne après une telle expérience. Car c'était l'inhumanité que l'on voyait en nous tous. Chacun de nous est capable de devenir un monstre nazi. Vous devez admettre que cette part existe en vous. Mais chacun a également la possibilité de devenir une Mère Teresa, si vous voyez qui je veux dire. Elle est une de mes saintes, une femme qui en Inde ramasse dans les rues des enfants et des adultes affamés et mourants. Elle est convaincue que pour ses mourants, la vie vaut la peine d'être vécue. À partir du moment où elle les a tenus dans ses bras, ne fût-ce que 5 minutes pour les entourer de son amour. C'est un être merveilleux. Je voudrais que vous ayez l'occasion de la rencontrer. Avant d'aller en Amérique, j'ai été médecin de campagne en Suisse et très heureuse. En fait, j'avais préparé ma vie pour aller en Inde afin d'y travailler en tant que médecin, comme Albert Schweitzer en Afrique. Mais 2 mois avant le départ prévu, on m'informa que le projet avait échoué et à la place de la jungle indienne, je débarquais dans la jungle new-yorkaise après avoir épousé un Américain qui m'y emmena alors que c'était de tous les endroits de la terre celui où j'avais le moins envie de vivre. Et cela non plus ne fut pas un hasard. Il est facile de déménager dans une ville qu'on aime, mais aller vivre dans une ville qui ne vous attire pas du tout est une épreuve à laquelle vous êtes soumis pour vérifier si vous êtes capable de réaliser l'objectif que vous vous êtes fixé dans la vie. Je trouvais un poste de médecin dans le Manhattan State Hospital, qui est également un endroit affreux. À l'époque, je ne connaissais pas grand-chose en psychiatrie. Je me sentais très seule, misérable et malheureuse. En plus, je ne voulais pas rendre mon mari malheureux. Je me tournais donc complètement vers mes malades. Je m'identifiais à leur malheur, leur solitude et leur désespoir. Et peu à peu, mes malades commencèrent à se confier à moi et à me faire part de leurs sentiments. Et tout d'un coup, je compris que je n'étais pas seule avec mes misères. Pendant 2 ans, je n'ai rien fait d'autre que de vivre et de travailler avec ces malades. Pour partager leur solitude, je célébrais avec eux toutes leurs fêtes, que ce soit Yom Kippour, Noël, la fête de Hanouka ou Pâques. Comme je le disais, je connaissais peu la psychiatrie et particulièrement la psychiatrie théorique qu'on devrait, dans ma position, connaître. En raison de mes connaissances linguistiques insuffisantes, j'avais beaucoup de difficultés pour communiquer avec mes malades. Mais nous nous aimions. Oui, nous nous aimions vraiment. Après 2 ans, 94% de ces malades purent quitter l'hôpital et se défendre à New York. Et depuis, beaucoup d'entre eux travaillent et s'assument. Rappelez-vous que tous étaient considérés comme schizophrènes, irrécupérables. J'essaie de vous expliquer que le savoir est sans doute utile, mais que le savoir seul n'aidera personne. Si vous n'utilisez pas en plus de votre tête, votre cœur et votre âme, vous n'aiderez personne. Ce sont ces malades mentaux, soi-disant sans espoir, qui m'ont appris cette vérité. Au cours de mon travail, auprès des malades, que ce soit des schizophrènes chroniques, des enfants handicapés mentaux ou des mourants, j'ai découvert que chacun d'entre eux a une finalité. Chacun de ces malades peut non seulement apprendre et recevoir votre aide, mais il peut même devenir votre maître. Ceci est vrai aussi bien pour des enfants handicapés mentaux, même s'ils n'ont que 6 mois, que pour des schizophrènes sévères qui, à première vue, ont un comportement animal. Même les meilleurs maîtres de ce monde, mais les meilleurs maîtres de ce monde sont les mourants. Si on prend le temps de s'asseoir à leur chevet, les mourants nous renseignent sur les phases du mourir. Ils nous montrent comment ils passent par les stades de la colère, du désespoir, du « pourquoi justement moi ?», comment ils accusent Dieu, le rejetant même pendant un temps. Ils marchandent avec lui et font ensuite les pires dépressions. Mais si au cours de ces phases, ils sont accompagnés par un être qui les aime, ils peuvent atteindre le stade de l'acceptation. Tout cela n'a encore rien à voir avec les phases du mourir proprement dit. Nous les appelons les phases du mourir à défaut d'une meilleure désignation. Beaucoup de gens vivent les mêmes phases si un ami ou une amie les quitte, s'ils perdent un emploi, s'ils doivent abandonner la maison dans laquelle ils ont vécu pendant 50 ans pour aller en maison de retraite, ou encore s'ils perdent une perruche ou une lentille de contact. Et ceci, à mon avis, est le sens de la souffrance. Toute souffrance est génératrice de croissance. La plupart des gens considèrent leurs conditions de vie comme difficiles, leurs épreuves et tourments, leurs terreurs et toutes leurs pertes comme une malédiction, une punition de Dieu, quelque chose de négatif. Si seulement on pouvait comprendre que rien de ce qui nous arrive n'est négatif, et je souligne, absolument rien. Toutes les épreuves et souffrances, même les pertes les plus importantes, ainsi que tous les événements dont on dit par la suite, si je l'avais su avant, je n'aurais jamais cru pouvoir tenir le coup, sont toujours des cadeaux. Être malheureux et souffrir est comme forger le fer rouge. C'est l'occasion qui nous est donnée pour grandir. C'est la seule raison de notre existence sur Terre. On ne peut pas grandir psychiquement en étant assis dans un beau jardin où l'on vous sert un succulent dîner sur un plateau d'argent. Mais on grandit lorsqu'on est malade ou lorsqu'on souffre, lorsqu'il faut faire face à une perte douloureuse. On grandit si l'on ne se met pas la tête dans le sable, mais qu'au contraire, on accepte la souffrance en essayant de la comprendre, non pas comme une malédiction ou une punition, mais comme un cadeau fait dans un but précis. Je voudrais vous citer un exemple clinique. Dans un de mes groupes de travail qui dure une semaine et où tous les participants habitent ensemble, il y avait une jeune femme. Elle n'avait pas perdu un enfant, mais elle avait dû faire face à plusieurs, comme nous disons, petites morts. Lorsqu'elle accoucha de son deuxième enfant, une fille très attendue, on lui fit savoir d'une façon très inhumaine que l'enfant était sévèrement arriéré et ne serait même jamais capable de reconnaître sa mère. À peine avait-elle réalisé l'épreuve que son mari la quitta. Elle se retrouva seule avec deux enfants dépendants d'elle, sans disposer de revenus ou d'assistance. Au début, elle nia tout énergiquement. Elle ne prononça même pas le mot « malade mentale ». Ensuite, sa colère se tourna contre Dieu. Elle le maudit, puis nia son existence jusqu'à finalement l'insulter. Elle essaya alors de marchander avec lui et de faire des promesses. « Si mon enfant pouvait au moins apprendre quelque chose, si au moins il pouvait me reconnaître comme sa mère. » Et finalement, elle vit la signification profonde de cet enfant. Et j'aimerais vous raconter comment elle réussit à résoudre son problème. Elle commença à comprendre que rien dans la vie n'est dû au hasard. Elle regardait son enfant, plus souvent, pour essayer de trouver le sens d'une existence aussi misérable sur Terre. Elle a trouvé la solution de l'énigme. Pardon. Excusez-moi. Je voudrais vous lire un poème qu'elle a écrit et qui explique comment elle a trouvé la solution. Elle n'est pas poète, mais c'est un poème très touchant. Elle s'identifie à son enfant qui parle à sa marraine et c'est pourquoi elle a donné à ses vers le titre « Pourquoi ma marraine ?» Qu'est-ce qu'une marraine ? Je sais que tu es quelque chose de spécial. Pendant de longs mois, tu as attendu mon arrivée. Tu étais présente et tu m'as vue lorsque je n'avais que quelques minutes et tu as changé mes couches lorsque je n'avais que quelques jours. Dans tes rêves, tu imaginais comment serait ta première filleule. Elle serait quelque chose de spécial, comme ta sœur. En pensée, tu m'accompagnais déjà à l'école, à l'université, à l'hôtel. Qu'est-ce que je deviendrais ? Un honneur pour les miens ? Mais Dieu avait d'autres projets pour moi. Je ne suis que moi. Personne n'a jamais dit que je serais quelque chose de précieux. Quelque chose ne fonctionne pas dans ma tête. Je serai à tout jamais un enfant de Dieu. Je suis heureuse. J'aime tout le monde. Et tous m'aiment. Je ne peux pas dire beaucoup de mots. Mais je peux me faire comprendre et je comprends l'affection, la chaleur, la tendresse et l'amour. Dans ma vie, il y a des êtres particuliers. Parfois je suis assise et je souris, et parfois je pleure. Je voudrais bien savoir pourquoi. Je suis heureuse, et quelques personnes m'aiment. Que puis-je demander de plus ? Bien sûr, je n'irai jamais à l'université, et je ne me marierai jamais. Mais ne sois pas triste, Dieu m'a faite très spéciale. Je ne peux pas faire de mal, je ne peux qu'aimer. Et peut-être Dieu a-t-il besoin de quelques enfants qui savent seulement aimer. Tu te souviens lorsque je fus baptisée ? Tu te tenais et tu espérais que je ne crierais pas et que tu ne me laisserais pas tomber. Rien de tel n'est arrivé et ce fut une journée très heureuse. Est-ce que pour cela tu es ma marraine ? Je sais que tu es tendre et chaleureuse, que tu m'aimes, mais dans tes yeux il y a quelque chose de très particulier. Je vois ce regard et sans cet amour chez d'autres. Je dois être spéciale pour avoir autant de mères. Je ne réussirai jamais aux yeux du monde, mais je te promets quelque chose que peu de gens peuvent. Puisque je ne connais qu'amour, bonté et innocence, l'éternité nous appartiendra, ma marraine. C'est la même mère qui, quelques mois auparavant, était prête à laisser son enfant ramper vers la piscine en espérant qu'il y tomberait et se noierait, alors qu'elle aurait été occupée dans la cuisine. J'espère que vous réalisez la transformation de cette femme. C'est ce qui se passe pour tous ceux qui sont prêts à regarder les choses qui leur adviennent des deux côtés de la médaille, à l'envers et à l'endroit. Rien n'a qu'un aspect, même si quelqu'un est gravement malade, souffre et qu'il n'a personne à qui se confier. même s'il croit que la mort vient le chercher au milieu de sa vie, alors qu'il n'a même pas commencé à vivre vraiment. Même dans ce cas, il faut qu'il regarde l'autre côté de la médaille. Tout d'un coup, on fait partie des rares personnes qui peuvent jeter tout leur fatras par-dessus bord. On peut aller vers quelqu'un et dire « je t'aime », car on sait qu'il ne reste que peu de temps à vivre. On peut enfin faire des choses qu'on a vraiment envie de faire. Beaucoup parmi vous ici ne font pas le travail qu'au fond d'eux-mêmes ils auraient voulu faire. Vous devriez rentrer chez vous et commencer autre chose. Comprenez, vous, ce que je veux vous dire. Personne ne devrait vivre en fonction de ce que les autres ont dit de faire. C'est comme si on obligeait un adolescent à préparer un métier qui ne lui convient pas. Si l'on écoute sa voix intérieure et son propre savoir intérieur, qui par rapport à soi est plus important que tout autre savoir, on ne se trompera pas et l'on saura ce qu'on doit faire de sa vie. Dans ce contexte, le facteur temps n'a aucune importance. Après avoir travaillé avec des mourants pendant de nombreuses années et ayant appris d'eux ce qui est essentiel dans la vie du fait qu'ils parlent juste avant de mourir de leurs regrets, alors que tout semble tard, trop tard, je commençais à réfléchir à ce qu'était la mort. Dans mes cours, le rapport de Madame Schwartz fut le premier d'une malade qui ait eu une expérience extracorporelle. Actuellement, 1977, nous disposons déjà de centaines de rapports semblables, qu'ils aient été dirigés en Californie, en Australie ou ailleurs. Ils ont tous un dénominateur commun, à savoir que les personnes en question ont quitté leur corps physique en toute conscience. Cette mort, dont les scientifiques veulent nous convaincre, n'existe pas en réalité. La mort n'est que l'abandon du corps physique, de la même manière que le papillon quitte son cocon. La mort est le passage dans un nouvel état de conscience dans lequel on continue de sentir, de voir, d'entendre, de comprendre, de rire, où l'on a la possibilité de continuer à grandir. La seule chose que nous perdons lors de cette transformation est ce dont nous n'avons plus besoin, à savoir notre corps physique. C'est comme si, à l'approche du printemps, nous rangions notre manteau d'hiver, sachant qu'il est trop usé et que nous ne le remettrons pas de toute façon. La mort n'est rien d'autre. Pas un de mes malades ayant eu une expérience du seuil de la mort n'a pas par la suite eu une quelconque peur de mourir. Et je voudrais le souligner. Pas un seul. Beaucoup de ces malades nous ont également dit qu'en plus de la paix, du calme et de la certitude de pouvoir percevoir sans être perçu, ils avaient une impression d'intégralité. À savoir que quelqu'un qui avait perdu une jambe lors d'un accident de voiture et qui la voyait par terre avait l'impression d'être à nouveau en possession de ses deux jambes après avoir quitté son corps. Une de nos malades est devenue aveugle à la suite d'une explosion de laboratoire. Immédiatement après, elle s'est trouvée à l'extérieur de son corps où elle pouvait à nouveau voir. Elle regardait les suites de cet accident et décrivit plus tard ce qui se passait quand des gens arrivèrent sur les lieux. Lorsque les médecins réussirent par la suite à la faire revenir à la vie, elle était devenue complètement aveugle. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux luttent contre nos tentatives de les ramener à la vie, parce qu'ils se trouvaient en un lieu tellement plus merveilleux, plus beau et plus parfait. À ce propos, les moments les plus impressionnants concernant mon travail commençaient il n'y a pas très longtemps avec des enfants mourants. Actuellement, presque tous mes malades sont des enfants. Je les emmène chez eux afin qu'ils puissent y mourir. Je prépare leurs parents et leurs frères et sœurs. Les enfants ont très peur d'être seuls au moment de la mort et de n'avoir personne auprès d'eux. Mais au moment du passage, on n'est jamais seul. On n'est pas non plus seul dans la vie de tous les jours, mais on ne le sait pas. Or, au moment de la transformation, nos guides spirituels, nos anges gardiens et les êtres que nous avons aimés et qui sont partis avant nous seront près de nous et nous aideront. Cela nous a toujours été confirmé, de sorte que nous ne doutons plus de ce fait. Notez que je fais cette constatation en tant que scientifique. Il y a toujours quelqu'un pour nous aider lorsque nous nous transformons. Généralement, ce sont les pères ou mères qui nous ont précédés, les grands-pères ou grands-mères, ou même un enfant qui est parti avant nous. Et souvent, nous rencontrons ceux dont nous ignorons qu'ils étaient déjà de l'autre côté. Nous avons le cas d'une fillette de 12 ans qui ne voulait pas parler à sa mère de sa merveilleuse expérience, puisqu'aucune mère ne veut entendre qu'un de ses enfants s'est senti mieux ailleurs que chez elle. Ceci est compréhensible. Mais l'expérience de la fillette était si extraordinaire qu'elle avait eu besoin de la raconter à quelqu'un. Elle a donc confié à son père qu'elle avait vécu lors de sa mort, entre guillemets, des événements si merveilleux qu'elle n'avait pas voulu revenir. Ce qu'il y avait de particulier, indépendamment de la splendeur magnifique et de la luminosité extraordinaire qui ont été décrites par la plupart des survivants, c'est que son frère était près d'elle et l'avait prise dans ses bras, avec amour et tendresse. Après avoir raconté tout cela à son père, elle ajouta « La seule chose que je ne comprenne pas est le fait que je n'ai pas de frère. » Son père se mit alors à pleurer et lui raconta qu'elle avait eu en effet un frère qui était mort 3 mois avant sa naissance, mais personne ne lui en avait jamais parlé. Voyez-vous, pourquoi je vous cite un exemple comme celui-ci? Parce que beaucoup de gens ont tendance à dire « Bien sûr, elle n'était pas encore morte. » Et au moment de la mort, on pense naturellement à ceux qu'on aime et on les imagine physiquement. Mais cette fillette de 12 ans n'avait pas pu se représenter son frère. À tous mes enfants mourants, je demande qui ils souhaiteraient voir, qui ils aimeraient toujours avoir à leur côté. Bien entendu, cette question concerne toujours la présence terrestre. Beaucoup de mes malades ne sont pas croyants et je ne pourrais pas parler avec eux d'une vie après la mort. Il va de soi que je n'impose à personne mes convictions. Je demande donc à tous ces enfants qui ils souhaiteraient avoir près d'eux s'ils devaient choisir une personne. 99% se décident pour maman ou papa. Chez les enfants noirs, c'est différent. Ils préfèrent souvent une de leurs tantes ou grand-mères. C'est elle qu'ils aiment le plus et qu'ils voient le plus souvent. Mais il s'agit là seulement de différences culturelles et aucun des enfants ayant opté pour maman ou papa n'a rapporté par la suite avoir vu au cours de son expérience du seuil de la mort l'un ou l'autre de ses parents, à moins que l'un d'eux ne soit décédé auparavant.